et comme ils le souhaitent, je crois que c'est important qu'on puisse partager. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont lu le livre d'abord? Voilà, c'est ça. Ah, quand même, il y a déjà des lecteurs. Oui.
Je trouve vos mille moins défaites que je ne le pensais.
Comment? Oui, c'est ça, oui. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser des... Allez-y.
Je voulais savoir s'il y avait des réactions de la fratrie de François par rapport à entre le père, si des réactions familiales, entre
voisins,
de cousins,
de
la famille.
Au fur et à mesure.
Oui.
Alors, François, semble-t-il, avait 7 frères et sœurs. Celui que Pierre Bernardone a pris finalement pour héritier s'appelle Angelo. Ça se prononce bien Angelo ou Angelo, les italophones? Je crois que c'est Angelo, peu importe. C'est une façon de noyer le poisson pour ne pas répondre à la question, mais bon. Avec lequel le père n'est pas tendre. Il est même un peu méprisant. Il est tellement déçu que ce ne soit pas François qui reprenne la boutique, qui maltraite Angelo. Et l'un de mes lecteurs m'a dit « J'aimerais bien quand même creuser un peu cette histoire d'Angelo. » Et il me dit « Moi, ce qui m'intéresse, c'est les réprouvés de l'Évangile, c'est le frère aîné de... » Le fils aîné, oui, de la parabole du fils prodigue. Alors Angelo, ce qu'on sait, c'est qu'il a repris la boutique du père. Et ce qu'on sait aussi, là-dessus, on a quelques éléments dans les biographies, c'est qu'il se moquait de son frère. Il tournait en dérision les options de son frère. On trouve ça à 2 ou 3 endroits dans les sources, si je me rappelle bien. Mais si vous voulez compléter, hein, parce que là, je me trouve devant des gens qui connaissent par cœur toutes les biographies de François et je suis prêt. Par contre, ce qu'on sait, c'est que Angelo a eu des fils et des petits-fils et que dans sa descendance, on a trouvé beaucoup de franciscains. Mais on sait que sur le moment, ses sœurs, on ne sait pas du tout, d'autres frères et sœurs, on ne sait pas du tout, mais Angelo, oui, il a moqué son frère à plusieurs reprises. Mais en fait, après, il s'est marié, il a repris la boîte, il a eu des enfants qui sont allés dans cette... Donc il s'est converti certainement lui-même.
Frère Luc, à propos d'Angelo, je crois qu'il faut distinguer, on parle des moqueries d'Angelo vis-à-vis de François, on parle deux fois, je crois, c'est avant la mort de François, c'est le vivant de François.
Oui.
Il ne faut pas oublier que François était canonisé très vite. C'est-à-dire que une fois canonisé, je suppose que la famille a dû bénéficier en quelque sorte de l'aura de François et qu'à ce moment-là, il y a un renversement complet qui se passe. Et ça explique que la descendance d'Angelo ait produit quelques franciscains. Parce que le retentissement de la canonisation a été énorme.
Le retentissement de ?
De la canonisation.
Ah oui, pardon.
A été immédiatement énorme parce que il a été canonisé à Assise, par le pape lui-même, qui est venu à Assise, pour d'autres raisons d'ailleurs. Enfin, et la population était enthousiaste pour ça. Il y a eu un semblant de procès de canonisation. Il n'était pas tout à fait canonique par rapport à ce qu'avait prévu Lucius III. Et cependant, il est mis tout de suite sur les autels. Pas seulement canonisé, mais l'office divin est modifié en sa faveur. Et puis, dans les 4 ans, la basilique commence à s'élever et elle va être très rapidement achevée. Alors, la famille ne peut que bénéficier de cette aura.
Oui, parce qu'on suppose quand même qu'à ce moment-là, le père est mort depuis longtemps, mais il y avait effectivement ses fils. Oui, merci beaucoup. C'est oui, très intéressant.
Est-ce que le père a eu conscience que Claire partait sur les suites de François, parce que ça c'est quelque chose à la limite qui... parce que Claire c'est un autre monde, c'est un autre milieu social, et je me disais parce qu'à un moment dans votre conférence vous nous rappelez que d'une certaine manière le père admire la réussite de l'ordre et il voit en plus sans doute que il y a des filles de bonne famille, des filles de la noblesse, finalement un peu ce qu'il rêve par certains côtés. qui rejoignent François.
Oui, oui, absolument. Je crois que la mère de Claire finit par la rejoindre, hein, si je ne me trompe pas. Alors, on en parle un tout petit peu, mais ce que j'ai imaginé, c'est que, d'une certaine manière... alors oui, il y a certainement ça, mais il y a aussi des sarcasmes. Il y a beaucoup de sarcasmes aussi dans ce livre-là, sur lequel il reviendra, mais bon. Au fond, il n'est pas mécontent que l'aristocratie aussi soit touchée par le virus. Et que cette fille de famille aristocratique aussi ait décidé de suivre François. C'est ça que j'ai imaginé dans sa réaction. Peut-être qu'il y a eu d'autres réactions. Ce qui serait vraiment bien, c'est que dans 3 ans, ben, de même que Dallarin avait retrouvé un ancien manuscrit, on trouve une source qui nous raconte tout ça. Et à ce moment-là, on se retrouve. Et moi, j'aurais pas l'air mal, vraiment.
Moi, j'aime bien votre... J'aime bien que vous soyez arrêté sur cet épisode, parce que c'est vrai que moi, ça m'a toujours fait drôle, quoi.
Quel épisode, excusez-moi ?
Ben, je veux dire, ça me va bien que vous soyez arrêté sur cet état des choses où le père, qu'est-ce qu'il est devenu ? C'est vrai que ça nous interpelle quand même tous, hein, d'une manière ou d'une autre, comme parents. Je pense que c'est assez courageux d'avoir risqué de se mettre complètement, de faire parler le père. Moi, je trouve que c'est... Mais j'espère aussi, j'espérerais aussi beaucoup qu'on découvre un de ces 4 matins quelque chose qui nous expliquerait une évolution. Mais j'ai entendu sur Assise... comme quoi on aurait trouvé dans des actes notariaux, est-ce que c'est de l'argent que finalement le père aurait mis ou un héritage qu'il aurait laissé à son fils, qui pourrait laisser entendre qu'il y aurait eu une réconciliation. J'ai entendu ça.
Ah, alors c'est ce que... Mais corrigez-moi. Hein. C'est dans ces archives, effectivement, de la ville d'Assise, on trouve trace d'argent versé à Angelo, mais pas à François. Qui laisse à penser, je crois que c'était vers 1216, mais j'en suis plus, peut-être 1215, je ne sais plus, qui laisse penser que c'est peut-être là que le père serait mort. Mais d'après ce que je sais, moi, ce n'est pas à François, mais c'est à Angelo. Parce que, est-ce que... Oui,
c'est Angelo.
Angelo.
C'est Fortini qui dit.
Fortini, oui. Oui, oui. Ça. Oui, bah Fortini que j'aurais ignoré sans ce merveilleux endroit. Mais alors autour de... J'ai trouvé ici aussi des textes qui m'ont bien intéressé et qui montrent que l'enjeu de tout ça, c'était aussi la question de l'héritage et de la dot de Dame Pica. Parce que si Dame Pica décédait, c'était plus son mari qui avait l'usufruit de tout ça, et là encore je parle sous votre contrôle, c'est ses fils... Et en particulier François et Angelo. Et si François avait raflé sa part d'héritage, on sait qu'il l'aurait dilapidé, comme un Robin des Bois auprès des plus pauvres, etc. Alors que Angelo, lui, aurait maintenu cet argent dans la famille. Et dans, voilà, je crois qu'il y avait cet enjeu-là aussi. Juridiquement un peu compliqué, j'ai pas tout compris, mais c'est là qu'on voit que finalement, et là on en revient au lien entre le roman et l'histoire, il y a des éléments juridiques et financiers et historiques très très complexes qui peuvent expliquer telle ou telle chose qui ne sont pas que des choses spirituelles. Quoi, et qui...
Pardon ? Ça suppose une lecture d'un autre ordre, parce que c'est le père qui a convoqué le fils pour le déshériter, à cause de ce problème d'héritage, justement. Et le fait que François lui renvoie tout... Il lui signifie que l'héritage, il n'en veut pas, donc il soit tranquille.
Oui, c'est même pas le problème, oui.
C'est une autre manière d'aborder le problème. C'est-à-dire, c'est pas un rejet du père, c'est finalement lui le laisser libre.
C'est oui. Ça, oui.
C'est tout autre chose.
Oui, oui. Tu m'empêches de vivre, ton argent m'empêche de vivre, ton argent m'empêche d'aller où je vais, donc je renonce à mon héritage et je pars libre vers d'autres...
Non, non, non. C'est François qui redonne sa liberté au père qui risquait de voir son commerce impossible si la moitié,
ah oui,
si la moitié,
d'accord,
de la dot.
Oui, oui.
Ben oui, c'est de la faillite. Mmh.
Mais il aurait peut-être pu.
Il faut pas trop psychologiser les choses. Elles sont en fait bien terre à terre.
Oui, mais on peut estimer qu'il aurait peut-être pu éviter de dire « je ne reconnais plus comme père le nommé Pierre Bernardone ». C'est, enfin, à moins que les sources, là aussi que les biographies brodent un peu. Oui, mais je vois très bien ce que vous voulez dire.
Enfin, c'est quand même important comme perspective, parce que c'est pas pour rien que c'est rapporté, c'est pas pour rien non plus que François rappelle que, je dirais, c'est l'évêque qui va être le juge. C'est pas le podestat. Le podestat,
il a été récusé, de toute façon.
On peut l'avoir avec la finance.
Bah oui.
Mais on peut le tenir avec la finance. Mmh. Là, c'est autre chose.
D'ailleurs, François était très malin en refusant justement la justice du podestat et en disant qu'en tant que consacré à Dieu, il relevait de l'évêque. Je pense que le père, ça l'a mis dans une colère folle, mais qu'il a dû admirer son fils de ça. Il est malin.
Bon,
malin, le gars-là.
Le fils n'était pas plus facile à rouler que le père.
Non, 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 sûrement pas.
J'ai encore une question à propos du roman, là, alors. Est-ce que vous n'avez pas lu, je m'en excuse, est-ce que vous avez évoqué une réaction possible du père à la distribution des biens de Bernard de Cataval? Parce que c'était un homme de sa classe. C'était un marchand, connu, riche, qui avait réussi aussi, et qui, à l'âge de François, pratiquement, ou un peu plus âgé peut-être, abandonne tout et distribue aux pauvres sur la place publique.
Oui, non, je parle de Quintaval à un moment donné, mais ça, non, je ne raconte pas ça, non, non.
Ça a dû être aussi pour le père une interrogation extraordinaire,
ouais,
de voir quelqu'un de sa classe, de son rang.
C'est le virus, hein, c'est l'épidémie, oui. Oui.
Cette question de bien est extrêmement importante, parce qu'on pense, enfin, on pense que la famille de Claire, quand elle a, parce qu'avant de partir, elle a vendu ses biens. Et elle les a distribués aux pauvres. Et il semble que la famille les mise sous clé, justement, pour la maîtriser,
ah, oui, oui,
pour contrôler. C'est compliqué comme affaire.
Le fond, l'argent est au cœur de toute cette affaire. Et moi, c'est vrai que j'en traite plus avec ce que j'imagine du père, mais tout l'environnement que vous soulignez, là, je n'en ai pas beaucoup parlé dans le roman, effectivement.
Il n'y a pas que l'argent aussi. Ben, moi, ce que j'aime dans votre travail, dans votre livre, que j'ai pas complet, que j'ai lu déjà pour l'instant, mais en diagonale un peu, c'est qu'est-ce que c'est qu'être père aussi. C'est la question quand même qui nous est adressée. Enfin, moi, je la reçois 5 sur 5. Hein, je vois très très bien que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Peut-être encore plus. Peut-être autant aujourd'hui d'ailleurs qu'à l'époque de François, mais encore peut-être plus aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire être père? Parce que être mère, d'une certaine manière, il y a des choses qui se font tous. Enfin. Non, je veux dire, être mère, ça me semble être plus. En tout cas, être père, c'est pas facile. Non, mais c'est vrai, être père, c'est pas facile. Et je veux dire, de voir son. En particulier, perdre un fils. C'est vraiment. Et je trouve vraiment très intéressant, et ça fait de. Et je pense très intéressant d'avoir pris cette histoire des rapports entre François et son père comme quelque chose d'un peu. Qui peut parler à l'universel, quoi. Qui peut parler de notre relation, notre manière d'être père, d'être fils. Ce que vous disiez là, sur cette espèce d'absence de communication, mais dans nos familles, combien de garçons, finalement, parlent à leur père? C'est pas si évident que ça. Combien parlent à leur fils? Pas évident.
Alors là, à la fois, il y a la question de la possession. Est-ce que je possède mes enfants? Alors, on pense irrésistiblement, évidemment, à Khalil Gibran, vos enfants ne sont pas vos enfants, etc. Est-ce qu'un père possède son enfant? Est-ce qu'il peut maintenir longtemps cette possession? trouve que cette histoire-là est intéressante de ce point de vue-là. Et puis, est-ce que combien de jeunes parlent à leur père et je dirais combien de temps aussi ? Parce que je pense qu'il y a des périodes dans une relation entre père et fils où on se parle, on peut même se parler beaucoup, et puis après, on ne se parle plus beaucoup. Et on ne sait pas pourquoi. Et quand on a arrêté de se parler, c'est difficile de se reparler. Hein, bon, voilà. Mais bon. Mais la possession, la maîtriser les gens.
Est-ce qu'on peut imaginer que dans le contexte de l'époque, là il y en a peut-être qui pourraient nous répondre, que dans les biographies, on a insisté, on a peut-être voulu mettre le paquet pour noircir un peu ces familles qui sont trop attachées à l'argent ou qui éduquent mal leurs enfants ou je sais pas quoi, faire une espèce de démonstration, forcer le trait, estomper, et justement, du coup, estomper l'idée d'une réconciliation possible, ou je sais pas. Enfin, très probablement que on n'imagine pas que cette scène n'ait pas eu lieu, parce que ça a été trop. Retranscrit partout et ça devait être très, très fort pour expliquer François, mais est-ce que il y a pu avoir un contexte qui fait qu'on a cherché à noircir un peu quoi,
oui, et puis enfin, non seulement les biographies ont pu noircir ça, mais le genre de petite plaisanterie du type du drapier d'assises, ça peut être aussi ça, forcer le trait, voilà, pour mettre des choses très tranchées, et très, voilà, pour faire du roman. Moi, je pense que enfin, encore une fois, je veux pas. C'est très délicat parce que ceux qui ont lu le livre comprendront ce que je veux dire. Mais l'être humain évolue, l'homme évolue. Tout n'est pas indéfiniment d'un bloc. Il peut y avoir des failles. Il peut y avoir des périodes où, au fond, ce qui nous faisait vivre, ce qui nous fascinait, ce qui nous faisait marcher, avancer, ben, perd de son goût. Un petit peu comme François, peu à peu, a perdu le goût des fêtes. Ça n'intéressait plus trop. Je vous suis, vous voulez que je vous paye à boire, je vous paye à boire, mais enfin bon, j'ai pas envie de rentrer trop tard, ou je préfère être seul dans... Voilà. À un moment donné, des choses qui, pour moi, sont très importantes, comme, enfin, je dis moi, de façon générique, hein, comme l'argent, voilà, la puissance, etc., peuvent éventuellement perdre un petit peu de leur goût. Et que c'est vrai que, d'ailleurs, dans tous les domaines, les stéréotypes, les généralisations, tout ça, il faut s'en méfier comme de la peste. Mais c'est une tentation chez tous ceux qui veulent... au fond, par des effets de manche ou des procédés littéraires, faire du truc, du dur, quoi, du lourd, des romans où il se passe quelque chose de violent, des oppositions.
Et moi, justement, c'est là-dessus que je voudrais un petit peu partager avec vous, parce que c'est ce qui m'a vraiment touché et bouleversé dans votre livre, c'est que ce n'est pas tant la trame biographique qui me semble être un soutien, mais ce qui ni même la relation psychologique entre le père et le fils, moi je crois que c'est il y a aussi chez Pierre une succession de conversions qu'il ne veut pas accomplir, et de même que son fils va vers plusieurs étapes vers des conversions vers la sainteté, il va aussi vers sa sainteté le père à la fin. Je ne veux pas non plus trahir.
C'est fait. Mais c'est pas grave. C'est pas grave.
Ce que je voulais dire, c'est justement cette montée vers le Golgotha, que c'est comme ça que je l'ai compris, en tout cas, enfin, que je l'ai vécu dans votre finale, qui est une rédemption. Le père a droit à ses erreurs. Et ça m'a... Je crois qu'il y a aussi... La quête de Dieu, elle est valable aussi pour le Père. Et que si le Saint qui est allé sur les autels, tout le monde le connaît, François est un prénom universel, celui de notre pape, mais s'il ne s'appelle que le drapier, s'il n'a pas de nom, eh bien je crois que par votre ouvrage, vous lui avez donné un prénom au Père. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et pour moi, je considère cet ouvrage... comme une forme de prière, d'invitation hein, au partage de l'intime, au-delà de tout ce que l'on peut dire. Je crois que c'est pour cela que je suis ici ce soir, pour vous le dire. Et je n'avais pas prévu de le dire ici ce soir.
Je vous remercie beaucoup. Merci infiniment. Ça me touche beaucoup, cette lecture. Oui. Merci.
Merci à vous.
Pour répondre à la question de Pierre Moracchini, je pourrais vous soumettre cette réflexion que j'ai entendue, qu'être père, vraiment, c'est... On devient vraiment père que le jour où on adopte son enfant. Cette réflexion a fait beaucoup bondir les pères.
Ah non, non, non.
Je comprends ce que ça veut dire.
Oui. Oui.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
Oui, oui.
Bien sûr. Moi, je voudrais reprendre un tout petit peu sur l'apport un peu de votre livre, ensuite de ce que vous avez dit là, monsieur. Il y a 20 ou 30 ans, je crois que notre association, elle commençait déjà à exister, mais je ne suis pas sûr qu'on aurait invité Michel Socquet à nous parler. Parce que on préférait des grands historiens, des grands philosophes, des grands théologiens, et je ne suis pas sûr qu'on vous aurait invité, parce qu'on nous aurait dit, bon, c'est un roman, bon, bah, ça n'a pas forcément sa place ici.
De toute façon, je n'étais pas libre ce jour-là, donc.
Mais je pense qu'on a tous évolué, et en particulier, je crois que les historiens se sont aperçus que le travail des romanciers n'était pas forcément un travail nul et qui pouvait jouer son rôle dans la construction d'une histoire. Hein, et qu'ils avaient besoin. Et moi, je suis très frappé de plus en plus qu'il y a aujourd'hui un dialogue entre des gens qui font dans la fiction et les historiens. Et ça, c'est quelque chose d'assez neuf. Et on a beau être historien, sans doute qu'on ne donnera pas au père de François l'importance, le prénom, comme vous avez dit, que vous avez pu lui donner. Et là, sans doute que c'est le romancier qui s'appuie sur des sources, hein, qui s'appuie sur tout un travail. Et de fait, on vous a vu travailler sur toutes ces sources. Et c'est à partir de là que vous pouvez faire quelque chose que ne peut pas faire l'historien. Et donc, on a besoin de travailler ensemble. Mais encore une fois, moi, j'ai changé. De ce point de vue-là, j'ai changé.
Merci beaucoup. En tout cas, Brigitte, Pierre, oui. Pierre m'a vu travailler, donc je n'étais pas au ciné. Le jour où je t'ai dit que je venais à la bibliothèque.
Est-ce qu'on peut pas dire que d'une certaine manière, Pierre Bernardon est ce colosse au quai d'argile qui s'écroule à cause de l'attitude et du changement de vie de son fils? Est-ce que l'un s'écroule parce que l'autre lui donne met en question son horizon spirituel, qui est un peu maigre, un peu bas, et François lui présente autre chose, qui l'inquiète profondément.
Oui, je trouve que c'est effectivement un très très bon résumé de toute la thématique de ce livre. Je m'étais demandé à un moment donné si cette fragilité du père, qui effectivement va apparaître progressivement dans le roman, là maintenant, ça y est, on peut le dire, les vannes sont ouvertes, elle n'était pas liée au fait que Pierre Bernardin était un homme profondément seul. Mais je me suis aperçu dans mes lectures que ce n'était pas le cas, que c'était quelqu'un, c'était vraiment un notable, il était connu comme le loup blanc. On venait chez lui, on venait chez le drapier pour échanger les nouvelles, savoir ce qui se passait dans le vaste monde. Et il avait un véritable pouvoir, mais aussi plein de copains, plein d'amis, manifestement. Et donc, ce n'est pas la solitude. Effectivement, c'est d'un autre ordre, qui est d'un ordre sans doute plus de la faille spirituelle qui s'est insérée en lui par l'intermédiaire de la contemplation de son fils, d'une certaine manière.
Sur les fondements de la personne, moi je pense qu'il y a quelque chose en plus. C'est que lorsque on regarde, par exemple, où il habitait à Assise, il habite juste à côté de la place du Popolo, juste à côté de la mairie. Il avait donc une place très précise.
Oui, oui.
En plus, se mettre à cet endroit-là, c'est précis. Je rappelle, par exemple, que Saint-Père était près de la cathédrale. Le monde aristocratique était près de la cathédrale. Et donc, une très grande rivalité entre les deux mondes. Et je pense que ce qui était terrible pour Pierre Bernardin, c'est cet écroulement que représente la conversion de son fils.
La conversion de son fils, oui, oui. Oui, oui, c'est le, la... La place du peuple, la Piazza del Popolo, qui était l'endroit où François emmenait les clients pour faire mesurer, s'ils ne voulaient pas le croire, sur la longueur d'une étoffe, sur le temple de la place, il y avait une aune, il les emmenait là où effectivement c'était tout près, oui. Pascal.
Si tu as un peu de temps après ce livre, peut-être que tu pourrais... écrire ce qui est arrivé avant. Il se trouve qu'avec mon père, j'ai creusé des questions de généalogie. Je suis du Vaucluse. Et dans le Vaucluse, dans l'endroit où j'habite, il y a des Vaudois. De la famille, des ancêtres Vaudois. Et en creusant cette question, j'ai découvert que François... Que Pierre Valdo était de la même génération que Pierre Bernardone. Et non seulement de la même génération, mais du même métier. Et que, sans doute, enfin, en tout cas, c'est la conviction de certains protestants de mon coin, ils se sont rencontrés à Lyon.
Le père Bernardone et
Pierre Valdo.
Et, Pierre Valdo.
Et alors, par un autre biais, mon père aussi... parle provençal, c'est investi dans la langue, et il se trouve que j'ai rencontré son prof de provençal qui me disait mais François d'Assise, il venait au marché de Beaucaire, il venait, et on dit que voilà, sa femme est provençale, c'était pour lui c'était une évidence. Bon, c'est sans doute un peu plus compliqué, mais en tout cas, il y a peut-être parmi les griefs qu'aurait pu faire Pierre à son fils, celui d'avoir... peut-être qu'il y avait plus de connivence entre eux par la rencontre du mouvement des pauvres de Lyon, comme on imagine. Parce que François a sans doute accompagné son père dans la... Enfin voilà, on peut imaginer. De toute façon, ce soir, j'ai l'impression qu'on peut tout imaginer. Donc.
Oui.
En tout cas, moi, j'aimerais, si, parce que tu as fait un sacré travail, mine de rien, d'historien, comme disait...
Oh non, pas d'historien.
Oui, non, mais tu as rassemblé des sources, en tout cas. Oui. Et que j'aurais pas le temps de faire ça. Mais si tu allais creuser ces différentes pistes... Parce que Pierre Bernardone, voilà... Il est de cette génération qui a connu l'effervescence évangélique du 12e. Et dans différentes villes, Drapierre, d'ailleurs du nord de l'Italie aussi.
Oui, c'est effectivement une piste intéressante. Que le fils ait accompagné le père dans les marchés, je crois qu'on trouve ça aux deux endroits dans les sources, mais je n'en suis pas si sûr que ça. En tout cas, je l'ai imaginé. Et j'ai imaginé qu'au cours de ces voyages, aussi bien en Champagne, dans les foires de Champagne, qu'en Provence ou ailleurs, il y a une espèce de complicité qui s'est établie entre le père et le fils autour du même métier. Il y a le métier de drapier, il est très très présent là-dedans. Et c'est un métier que, voilà, Pierre est passionné par ce métier-là. Il arrive à passionner son fils aussi là-dessus. Je pense qu'il y a une petite connivence qui a peut-être pu se créer là-dessus. Mais effectivement, sur l'aspect du lien avec le mouvement des Vaudois, je vais me mettre au travail. Peut-être pas ce soir, mais
bientôt. Où est-ce que François, finalement, a appris le français?
Ben, on dit que c'est pendant ses voyages, justement, je pense.
Et oui, par sa mère.
Sa mère. Le Provençal, d'ailleurs.
Non, c'est pas le Provençal. Les textes, les fois, Francigena, c'est la langue du Nord, c'est pas la Provence.
Ah, mince, non.
Qu'il ait parlé provençal, c'est possible par la proximité des dialectes. Mais ce qui est mentionné par les sources, c'est la lingua francigena. C'est un peu plus clair.
Non, enfin, je vais être déçu. Tu vas être déçu.
Moi, je pense à une chose.
Oui, allez-y, non, il y a encore deux questions. Oui,
je pense à une chose. On parle beaucoup de donc, cette mésentente entre François et son père. On met ça beaucoup en exergue, mais quels sont les parents qui, une fois que leurs enfants deviennent adultes, n'ont pas des moments où ils sont complètement désemparés, ils ont quelquefois des gros clashs, et ça passe. Alors moi, j'ai toujours pensé que François, qui était quelqu'un de sensible, qui était bon, qui avait eu ça, d'ailleurs pour ça qu'il avait la joie, qui ait eu cette espèce de mésentente jusqu'à la mort du père, pour moi, c'est impensable.
Je suis bien d'accord.
Je réagis en parent. Hein. Y a des moments où nos enfants prennent des décisions. On se dit, mais il est complètement malade, mais qu'est-ce qu'il lui prend? On a même envie quelquefois de s'agacer. Puis le temps passe et on se dit, mais c'est son choix.
Et alors, c'est peut-être lui qui avait raison.
Lui n'a pas fait ça. Et enfin, pour moi, c'est...
On se rejoint dans la même énigme.
Une réflexion de mère de famille.
Si.
Alors, je lève une petite hypothèse sur l'effacement du père au niveau des sources. Je pense que les grands responsables, ce sont les prédicateurs. Prédicateurs de l'ordre en particulier. Parce que, à l'époque, il n'y a pas de spiritualité familiale. On ne prêche pas sur la famille. On ne trouve aucune prédication sur la famille. On prêche sur la relation à Dieu, point final. Or, ce qui intéresse le prédicateur, François inaugure une façon de présenter la filiation divine pour le bon chrétien. Il a choisi Dieu comme son père. C'est un choix, c'est pas seulement naturel de par la création. Tout à l'heure, on l'a dit, un père devient père quand il adopte son fils. Et bien, on pourrait dire François est devenu fils de Dieu quand il a adopté Dieu, d'une certaine façon. Et je crois que les prédicateurs, ne prêchant que sur la relation verticale, complètement occulté l'éventuelle relation au père qui aurait pu être une réconciliation, etc. Parce que de fait, quand on regarde la prédication du XIIIe, XIVe siècle, il y a pas mal de sermons sur Saint François. On évoque très peu, mais on part quand même, à cause de la suite chronologique, on part quand même de la conversion de François et de l'annonciation à son père. Et à ce moment-là, il y a un grand pathos sur la filiation divine. Et donc, dans la mesure où on exalte la filiation divine, eh bien, on ne parle plus du Dieu, je pense.
Ah oui. Très intéressant.
C'est d'ailleurs la piste qu'a suivi Charon, qui dit que François a retrouvé le sens de la loi du Père dans l'obéissance de Jésus sur la croix. Et que ça... Dans sa conversion, et ça a été long à apparaître, ça a rééquilibré une relation à un père qui était probablement très absent. Peut-être que le fils ne parlait pas beaucoup au père, mais le père, par ses voyages,
tout le temps,
était quasiment absent de la maison. Mmh. Ce qui fait que François avait une relation, j'allais dire, fusionnelle avec sa mère. Mmh. Et si on ajoute à ça les questions d'héritage et tout le reste, on voit la complexité de l'affaire dans laquelle toute la famille s'est débattue. Et je trouve que c'est extrêmement intéressant pour la spiritualité. Parce que ça ne se joue jamais en l'air.
Oui.
Et ça nous rappelle que, bon, on est pris dans ces choses-là. Et c'est vrai que quand on fait un choix vocationnel, ça ne plaît pas toujours aux parents. Moi, j'ai eu le problème avec mon père. Et je veux dire, ce qui m'a touché le plus, c'est qu'il a, jusqu'à ma profession définitive, il a espéré que je partirais. Et quelques années après, bon, on avait gardé les relations. Mais pour lui, c'est surtout que j'étais fils unique, en plus. La dose était forte. Et quelques années après, il m'a dit, bah, tu vois, c'était pas mon rêve, mais je vois que tu es heureux, c'est ce qui m'importe. Bah, je pense que les lieux de réconciliation, c'est à ce niveau-là que ça se joue.
C'est un petit peu présent dans le roman, le thème de François Heureux, de la découverte progressive par le père de cette réalité incompréhensible pour lui au départ, que son fils est heureux. C'est exactement ça, je crois, oui. Ce sur quoi sa mère, à un moment donné, Dame Picard, alerte le père en lui disant « Mais François, il est heureux. Fais quelque chose pour... » Enfin, bon, bref.
Ouais, encore une, on vit une belle soirée. Hein. Est-ce qu'il y a encore telle ou telle question?
Moi, je me suis posé la question de Dame Pika. Comment ça s'est passé quand il est rentré de voyage? Comment ils ont géré ça?
Dans le roman, il y a une volée de bois vert. Il me semble que dans les sources, il y a un petit peu quelque chose de ça aussi, mais j'en suis pas complètement certain. Mais ça chauffe. Hein. Les assiettes volent. Je ne sais pas s'il y avait des assiettes d'ailleurs à cette époque-là. J'en parle pas d'assiettes, hein, je. Des plats.
Bon, on va peut-être en rester là. On peut continuer la conversation. Surtout que vous allez voir, il y a un certain nombre d'ouvrages de Michel qui sont en vente là-bas. Il pourra vous mettre un petit mot, une petite dédicace et tout.
Avec plaisir.
On vous signale peut-être les prochaines conférences. Hein. Il y a encore deux conférences d'ici la fin de l'année.
L'année scolaire.
L'année scolaire, oui, parce qu'il y en a bien d'autres. Après, on prépare des surprises, hein. De grandes surprises pour la rentrée. Mais d'ici la fin de l'année scolaire, il y aura une conférence de Michel Gror, qui est là.
Qui est ici, là.
Et c'est les Capucins pendant la guerre de 14. Hein, on ne pouvait pas louper ça. En cette année, on fête le 100e anniversaire de Verdun. Hein, donc, c'est le 12 mai. 12 mai, donc voilà. Et puis, alors, entre un autre genre, ça sera le 16 juin, une conférence sur Cracovie franciscaine. Tous les saints franciscains de la famille franciscaine qui ont vécu à Cracovie. On sera à la veille des JMJ et on espère à ce moment-là pouvoir inviter un certain nombre de jeunes pour participer aux JMJ pour qu'un peu ils puissent avoir une petite séance de formation. On essaiera que ce soit la moins aride possible. Il y aura un frère polonais.
Toujours Pierre.
Décidément, ça en fait beaucoup. Qui viendra donc nous parler de la Cracovie franciscaine. Et puis alors, l'année prochaine, on vous en reparlera, on vous prépare un certain nombre de beaux rendez-vous. N'oubliez pas aussi que vous pouvez renouveler votre adhésion à l'association. Hein, c'est ce qui nous permet un petit peu de continuer à vivre. Et puis n'oubliez pas qu'il y a toujours, et je crois que c'est important dans notre vie fraternelle, je vais dire, oui, je vais utiliser ce mot, il y a toujours les bons cakes. Alors il y a à la fois des cakes de Cécile, il y a les gâteaux de Chantal, et puis quoi, il y en a encore d'autres. Et tout ça est important dans notre petite façon de fonctionner en famille. Michel, un grand merci.
Merci à vous.
Je crois qu'il y a des choses qu'on a entendues ce soir.